Vous êtes sur RTL.
RTL Midi avec Agnès Bonfillon.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Ravi de vous retrouver pour une heure d'infos, de débats, mais aussi d'opinions, puisqu'à partir de 13h, comme tous les jours, vous avez la parole au 32-10. N'hésitez pas si vous souhaitez réagir à l'actualité de ce vendredi 26 août. Les choses vont bien se passer pour cet hiver. Emmanuel Macron rassurant il y a quelques instants sur notre approvisionnement en énergie, sachant que les consommateurs, eux, verront leurs efforts récompensés directement dans leur porte-monnaie. Au Royaume-Uni, en revanche, atmosphère beaucoup moins sereine. À partir du mois d'octobre, les tarifs réglementés de l'énergie vont augmenter de 80%. Les élèves évalués de façon plus fréquente, le ministre de l'Éducation lance une phase de test pour davantage accompagner les collégiens. Quelle est la situation précise à la centrale nucléaire de Zaporijjia ? Selon le président ukrainien, une catastrophe a été évitée de justesse. Doit-on s'inquiéter ? Nous poserons la question à notre invité Olivier Dubois, directeur adjoint de l'expertise de sûreté à l'IRSN. Bison futé voie rouge dès aujourd'hui dans le sens des retours. Ça commence à bien boucher dans la vallée du Rhône, Clément Terrard.
Eh oui, Bison futé l'a annoncé, le trafic sera très dense aujourd'hui car vous êtes nombreux à revenir de vacances. Le pic est attendu en fin de journée, mais vous êtes déjà freinés sur l'autoroute A7 en remontant la vallée du Rhône en direction de Lyon. À commencer par ces bouchons de 10 km au niveau d'Orange, puis ces ralentissements de 7 km pour contourner Montélimar. Même chose au niveau de Loriol-sur-Drôme. En revanche, vous roulez bien avant et pendant dans la traversée de Valence. C'est plus difficile si vous approchez le sud de la métropole lyonnaise. Vous roulez en accordéon sur plus de 10 km pour contourner Vienne. Et puis, prudence si vous roulez sur l'A61 en direction de Toulouse. Un accident entre un véhicule léger et une caravane perturbe la circulation à hauteur de Trèbes. Levez le pied, la voie de droite et la bande d'arrêt d'urgence sont concernées.
Et on vous retrouve très régulièrement, hein, Clément, pour de nouveaux points sur RTL. La météo, c'est avec vous, Claire Delorme. Encore quelques orages cet après-midi, Claire.
Absolument, principalement à l'est de la région PACA en remontant vers le Grand Est. Partout ailleurs, ça sera beaucoup plus calme avec une alternance de passages nuageux mais aussi quelques éclaircies qui vont se développer. Et pour les températures, prévoir encore jusqu'à 34 degrés en Méditerranée. Partout ailleurs, il faudra compter entre 25 et 29 degrés.
La question du jour sur RTL.fr. Êtes-vous prêt à réduire votre consommation d'électricité certains jours en échange de tarifs avantageux le reste de l'année? Vous dites oui à 51%, non à 36%.
RTL Midi.
C'est depuis son déplacement en Algérie qu'Emmanuel Macron vient de s'exprimer justement sur le secteur de l'énergie. Écoutez, le président se veut rassurant.
Nous, on ne va pas avoir de problème parce qu'on dépend peu du gaz. On a un seul grand gazoduc qui est avec la Norvège. On a sécurisé nos volumes et on est à plus de 90% de nos stocks. Donc en franco-français, les choses vont bien se passer pour cet hiver.
Rassurer les Français qui ont peur de voir les factures augmenter, de ne pas avoir assez de stock. Les Français qui se disent prêts à faire des efforts. L'été 2022, très marqué par les incendies, la sécheresse aura servi de déclencheur. Selon notre sondage BVA Orange pour RTL, plus d'un Français sur cinq a pris conscience de l'urgence climatique. Alors, est-ce que cela va se ressentir dans nos gestes au quotidien ? Pourquoi pas, si en plus cela se ressent dans notre porte-monnaie. Le gouvernement demande en effet aux opérateurs d'électricité de faire profiter les consommateurs de tarifs avantageux si ces derniers s'engagent à faire des efforts pendant les périodes de grand froid. Ce système gagnant-gagnant, Anaïs Bouissou, comment va-t-il se mettre en place?
Alors à l'heure actuelle, c'est un appel d'offres lancé pour inciter les opérateurs d'électricité à développer ces nouveaux tarifs. Dans les semaines et les mois à venir, il y aura donc des forfaits nouveaux disponibles pour vous et moi auxquels tout le monde pourra souscrire. Ces forfaits seront très peu chers quasiment toute l'année, moins 30% par rapport aux tarifs classiques, donc vous voyez, très avantageux, et 20 à 30 jours par an, en période de surchauffe du réseau, c'est-à-dire souvent en hiver, là les prix seront au moins doublés pour vous inciter fortement à moins consommer. Si vous faites l'effort de tout couper au maximum, ce type de forfait pourrait vous permettre d'économiser jusqu'à 450 euros si on se base sur une facture annuelle moyenne de 1500 euros. Ces forfaits ne sont pas nouveaux, mais ils vont être remis au goût du jour. Écoutez Nicolas Goldberg, spécialiste énergie au cabinet Columbus Consulting.
Quand on a mis en place ces tarifs pendant les crises pétrolières des années 70, à l'époque où l'électricité était faite à partir de pétrole, on a vu d'énormes gains sur le réseau. On peut gagner énormément d'énergie et de puissance sur le réseau à certains moments, et c'est comme ça qu'on peut arriver à gérer la demande. C'est une excellente nouvelle que l'État remette au goût du jour ces anciens tarifs qui, là, seront modernisés.
Et si on se base sur les pics de consommation déjà enregistrés par le gestionnaire RTE, ce type de forfait modulable, vous aurez déjà demandé depuis le début de l'année 9 jours d'effort en janvier et 2 jours au mois de mars.
Merci beaucoup pour ces explications, Anaïs Bouissou du service économie et sociale de RTL. Qu'en pensent les consommateurs ? Eh bien écoutez, ils sont plutôt partants. Arthur Pereira vient de poser la question dans les rues de Paris.
C'est une très bonne idée parce que moins on paiera cher, mieux on sera content. Même s'il faut, il faut faire attention après sur l'utilisation.
Pourquoi pas si c'est clair, si les conditions sont claires, si c'est borné. Si...
Ça ne vous fait pas peur de recevoir un message du jour pour le lendemain en disant bah, attention, entre 9h et 18h, pas d'électricité ou alors elle sera très chère.
Si, le jour pour le lendemain, ça fait peur. Après, s'il y avait un délai d'une dizaine de jours, ou je ne sais pas moi, d'une semaine, deux semaines, peut-être que ce serait plus acceptable.
C'est déjà ce que j'utilise aujourd'hui, ça s'appelle les contrats tempo de mémoire.
Eh bien voilà, pour en parler, nous accueillons en direct François Carlier. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Délégué général du CLCV, Association nationale de consommateurs et usagers. Un système dit gagnant-gagnant, le terme vous convient ?
Alors pas forcément, je dirais, j'appelle quand même à une certaine prudence, parce que ce type d'offres qui ont finalement été très peu souscrites dans le passé, elles s'adressent quand même à des publics assez spécifiques. Soit sur des gens qui ont vraiment la capacité à reporter la consommation, des personnes qui suivent de façon qui suivent ces informations de façon en étant très alerte, je dirais, parce que si on suit pas, on peut se retrouver avec une facture très très élevée. Donc je dirais qu'il y a une certaine prudence à avoir. Il va falloir faire une information des consommateurs extrêmement serrée et extrêmement claire. Et je le répète, je pense que ça ne s'adresse pas à tout le monde, c'est peut-être à 10% des Français qui peuvent vraiment adopter ce type d'offre.
Quand vous dites reporter la consommation, les foyers qui peuvent reporter la consommation, c'est avoir un autre moyen de se chauffer par exemple ?
Ben oui, par exemple, mais c'est souvent pas simple. C'est éventuellement bon. Par exemple, pour des gens qui sont pas forcément chez eux lors des heures de pointe et donc parce qu'ils travaillent ou ce type de choses. En réalité, ces offres ont été peu souscrites en France comme à l'étranger parce que contrairement aux industriels, les particuliers ont pas des moyens de report très évidents. En fait, vous voyez, parce qu'effectivement, dire bon, bah, arrêter le chauffage entre 18h et 20h l'hiver quand il fait très froid, on sent bien que c'est pas évident quand même. Donc c'est pour ça que c'est intéressant qu'ils relancent ce type d'offre parce que ça a son utilité. Je pense que ça sera une solution assez secondaire dans le vaste plan d'économie d'énergie et de sobriété qu'on doit faire pour cet hiver. Ça, c'est clair. Et je pense que quand même, il y a un gros enjeu de bonne information des consommateurs, parce que sinon, après, ça peut faire la casse. On peut se retrouver avec des gens qui, après, ont des factures très élevées.
François Carly, Anaïs Bouissou a une question pour vous.
On peut imaginer que ce type de forfait soit destiné en priorité à des personnes qui ont un poêle ou une cheminée, par exemple, à côté ?
Oui, je pense qu'il faudra explicitement dire dans les offres que elle s'adresse à certains profils de personnes. Je pense qu'il faut alors il faudra voir aussi par exemple les gens qui ont des véhicules électriques avec des batteries. Est-ce que ces profils-là rentrent ou ceux qui effectivement ont un chauffage par une autre voie que l'électricité, comme vous le dites, par des poêles. Je pense que ça serait bien qu'ils le précisent d'emblée, en disant que cette offre est notamment adaptée pour ces publics-là, et ensuite qu'il soit très très clair sur les informations et que les gens aient bien conscience qu'ils reçoivent une information, ils doivent s'adapter quasiment le jour même. Alors ça peut, on peut le faire, mais il faut vraiment avoir conscience de ça, parce que sinon ça peut très très mal se passer. Et on l'a aussi vu à l'étranger, des ménages qui pouvaient se retrouver avec des factures salées. Donc il faut bien maîtriser quand même ce type de dispositif.
Et est-ce qu'il y a d'autres offres qui pourraient aller dans ce sens, faire économiser de l'argent aux ménages qui font des efforts ? Est-ce que vous avez en tête un autre système ?
Non, en fait, les quelques systèmes qui avaient comme justement comme tempo ont été abandonnés parce qu'ils n'ont pas marché. En fait, hein, il faut avoir conscience de ça parce que pour le report de consommation pour les particuliers, c'est vraiment pas évident. Je le répète quand même, il me semble que pour faire les économies d'énergie cet hiver, la solution qui a un vrai impact et qui est la plus simple, c'est avoir un thermomètre chez soi et de se dire qu'il faut 19 degrés dans les pièces à vivre. Un degré de moins de chauffage, c'est 7% d'économie sur le chauffage, donc un degré en moins dans la pièce, et c'est quand même ça la mesure la plus évidente.
Merci beaucoup François Carlier d'avoir été l'invité de RTL Midi. Je rappelle que vous êtes le délégué général du CLCV, Association Nationale de Consommateurs et Usagers.
RTL Midi.
Au Royaume-Uni, les consommateurs aussi vont devoir changer leurs habitudes. Pas le choix, les tarifs réglementés de l'énergie vont augmenter, écoutez bien, de 80% à partir du mois d'octobre. La colère et surtout l'angoisse se font ressentir outre-Manche, Marie Billon.
Sur la place du marché du quartier de Bermondsey, au sud-est de Londres, le peu de gens qui font leurs courses font attention à n'ouvrir leur porte-monnaie que pour l'indispensable. Valérie a 79 ans.
Ça devient ridicule. Il va falloir faire attention à tout. Le plus important, c'est d'avoir à manger. On peut toujours se couvrir avec plus d'habits pour éviter le chauffage. Et je sais qu'il y a des gens qui vont dans les centres commerciaux ou autres pendant la journée. Comme ça, ils n'ont pas utilisé d'énergie dans la journée.
Lee, 66 ans, elle, a déjà acheté deux lampes à piles avec lesquelles elle se déplace de pièce en pièce dans sa maison pour éviter d'allumer la lumière. En attendant le bus, elle discute avec sa sœur aînée et se demande comment elles vont pouvoir s'en sortir.
On pourrait peut-être vivre ensemble cet hiver, ça ne ferait qu'une facture pour nous deux et qu'on se partagerait.
Si ça fait économiser un peu et nous permet de passer l'hiver, il va bien falloir le faire. Mais le gouvernement doit faire quelque chose.
Le ou la successeur de Boris Johnson sera connu la semaine prochaine. D'ici là, le gouvernement dit qu'il ne peut rien faire.
Le reportage de Marie Billon, la correspondante de RTL en Grande-Bretagne. Et justement, vous parliez du successeur de Boris Johnson. Eh bien, Emmanuel Macron vient de répondre à l'une des candidates, la favorite hein, en fait, pour le poste de Premier ministre du Royaume-Uni. Si on n'est pas capable, entre Français et Britanniques, de dire si on est ami ou ennemi, on va vers de sérieux problèmes. Voilà ce qu'a déclaré Emmanuel Macron, répondant donc à Liz Truss, qui hier interrogée sur ses relations avec Emmanuel Macron, disait qu'elle ne s'exprimerait pas, elle a botté en touche complètement, en disant qu'elle attendait de juger le président français sur ses actes. Et visiblement, ça n'est pas du tout passé auprès de l'Élysée. Dans un instant, nous vous parlerons d'une agression homophobe de femmes passées à tabac à Fontenay-sous-Bois.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi. Avec Agnès Bonfillon.
Midi 44 sur RTL, agression homophobe dans la nuit de mercredi à jeudi. Un couple de femmes a été insulté et passé à tabac à Fontenay-sous-Bois. Les deux agresseurs sont toujours en fuite. Guillaume Chiesse, bonjour à vous.
Bonjour.
Aucun doute, hein, c'est en raison de leur orientation sexuelle que ces deux femmes ont été agressées.
Oui, c'est tout simplement parce qu'elles se baladaient main dans la main dans un parc que les deux agresseurs les ont abordées. Elles sont d'abord victimes d'une volée d'insultes homophobes. Puis l'un d'eux se rapproche, leur saisit les fesses, la poitrine. Les deux femmes prennent la fuite, montent dans leur voiture, elles démarrent, mais au bout de quelques mètres, leur véhicule est caillassé. L'une des femmes sort, reconnaît les deux agresseurs. L'un d'eux la projette au sol, lui donne plusieurs coups de pied, et quand elle parvient à se relever, le second lui assène un violent coup de poing en plein visage. Les deux hommes prennent ensuite la fuite, à pied. La victime qui a été blessée au visage a dû être hospitalisée. Toutes deux ont déposé plainte hier. Elles ont pu décrire aux enquêteurs leurs deux agresseurs, deux hommes âgés d'une vingtaine d'années, qui sont désormais activement recherchés par les policiers.
Guillaume Chiesse du service police-justice de RTL. Deux gendarmes ont été sévèrement blessés hier à Vidaya dans la Creuse. Ils ont été renversés par la voiture d'un Britannique lors d'un délit de fuite. Le conducteur, là aussi, n'a toujours pas été retrouvé. Depuis 4 ans, on connaissait les évaluations de CP, CE1 et 6e. Eh bien, elles vont s'étendre, ces évaluations, à d'autres classes. Bonjour Marie Guerrier.
Bonjour.
C'est ce qu'a annoncé ce matin le ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye, lors de sa conférence de rentrée.
Oui, des évaluations dès ce début d'année pour 15 000 élèves de CM1 et 25 000 élèves de 4e. Alors c'est pour l'instant un échantillon de classe et ensuite à la rentrée 2023, ces évaluations seront généralisées. Le ministre les présente comme un outil nécessaire pour relever le niveau au collège.
Nous avons en effet des motifs de vigilance et de préoccupation à l'égard du niveau en mathématiques ou du niveau en anglais. Et donc, la question des évaluations est une question importante. Elle n'est pas faite pour classer les établissements. Elle permet de se situer, d'adapter ses méthodes pédagogiques, cette culture de l'évaluation. Je sais qu'elle peut faire grincer les dents, qu'elle peut susciter des interrogations, mais j'insiste sur son utilité à pouvoir agir au mieux, de réformer le cas échéant au service de nos élèves.
Et Pape Ndiaye veut lancer dès cet automne un travail en profondeur sur le collège, c'est son nouveau chantier. En 10 ans, le nombre de collégiens en difficulté a augmenté de 10% et le ministre ajoute un élève sur 4 n'a pas le niveau attendu en fin de 3e.
Marie Guerrier, la spécialiste éducation de RTL. Merci Marie. Alors que les Français semblent de plus en plus préoccupés par le réchauffement climatique, on en parlait en début de journal via notre sondage BVA Orange, les Verts ont une vraie carte à jouer. C'est ce dont il est question aux universités d'été, en ce moment même à Grenoble. Sauf que l'équation n'est pas si simple, Marie Mollet, car il s'agit de continuer à exister sans se faire croquer par la France insoumise.
Oui, difficile pour les Verts de se faire entendre à l'ombre de la France insoumise, reine de la com et poil à gratter du Palais Bourbon. C'est vrai, on a un problème de marketing, reconnaît l'eurodéputé Benoît Biteau.
Il faut peut-être qu'on regarde la façon dont effectivement font les LFI pour être plus bankable pour le commun des mortels. On est très bon sur les aspects techniques, on a les réponses et donc maintenant il faut qu'elles soient audibles.
Mais pour exister, ce n'est pas qu'une question de décibels, griffe le député Julien Bayou. Notre différence, dit-il, c'est qu'on est prêt à faire avancer les textes de l'exécutif. Pas question d'être dans l'opposition systématique à la sauce LFI.
La LFI, dans la mandature précédente, n'avait que l'opposition bruyante comme stratégie. Je pense qu'aujourd'hui, on a aussi la stratégie des compromis. On peut aller arracher des victoires.
Et pour ne pas se faire engloutir, les écologistes comptent déjà sur le prochain scrutin, les européennes, la députée Sandrine Rousseau.
Dans ces élections-là, les écologistes sont en forme de leadership. C'est nous qui, en général, faisons les plus gros scores là-dessus. Et donc, il va falloir travailler sur les équilibres au sein de la NUPES.
Il est vrai, en 2019, la France insoumise avait trébuché et terminé à moins de 7% des voix.
Marie Mollet pour RTL aux universités d'été d'Europe Écologie Les Verts.
RTL Midi.
On a frôlé la catastrophe, les mots forts, les mots graves du président ukrainien après l'interruption pendant plusieurs heures de l'alimentation en électricité de la centrale de Zaporijjia. On le rappelle, hein, il s'agit de la plus grande centrale nucléaire d'Europe qui est sous contrôle russe depuis pratiquement le début de la guerre. Nous allons en parler dans un instant avec le directeur adjoint de l'expertise de sûreté à l'IRSN. Mais pour l'instant, Julien Fontera, je me tourne vers vous. Est-ce que l'on risque très concrètement un nouveau Tchernobyl ?
Non, parce que la situation n'est pas du tout similaire et l'équipement des centrales n'est pas non plus le même. Ce que dit le président Zelensky, c'est qu'à l'occasion de cette interruption, les systèmes de secours se sont enclenchés et que l'incident a été provoqué par un incendie à proximité de la dernière ligne qui injectait du courant. Volodymyr Zelensky met en cause des bombardements russes. Il semble que l'alimentation soit revenue ce matin, ce qu'on peut déduire des propos du président ukrainien. Ce qui provoque l'inquiétude de certains experts en revanche, et Olivier Dubois dans quelques instants va peut-être le confirmer, c'est que, un, si Zelensky dit vrai, se pose un problème de sûreté. Quand la centrale n'est pas alimentée en électricité, il n'y a plus moyen de refroidir l'eau dans le cœur du réacteur. Mmh. Et la température augmente jusqu'à atteindre la température de fusion du combustible. C'est le scénario plutôt de Fukushima. Autre point très sensible, c'est que depuis le 4 mars, la centrale de Zaporijjia est occupée, vous l'avez dit, par l'armée russe. Certains salariés ukrainiens ont fui, certains auraient été arrêtés. Est-ce que les Russes permettent aux Ukrainiens de répondre aux problèmes, d'avoir accès aux pièces de rechange, de réparer ? C'est cette information qu'on aimerait connaître désormais.
Merci Julien Fautra, vous restez avec moi pour accueillir Olivier Dubois. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes le directeur adjoint de l'expertise de sûreté de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. La question, effectivement, que l'on se pose tous, doit-on s'inquiéter ?
Écoutez, oui, la situation à la centrale est préoccupante pour les raisons qui viennent d'être évoquées. Depuis le début du mois d'août, on a observé une recrudescence d'incidents et de bombardements au voisinage de la centrale. Alors jusqu'à présent, ils n'ont pas touché d'organes vitaux vis-à-vis de la sûreté. On observe aussi une fragilisation de plus en plus importante des alimentations électriques de la centrale. Et les alimentations électriques, c'est important non seulement pour que la centrale puisse exporter son courant vers le réseau électrique quand elle fonctionne, mais aussi lorsque la centrale est à l'arrêt pour alimenter en courant les pompes de refroidissement du cœur des réacteurs. Et on est également inquiet pour le personnel de la centrale, et on se demande quelles sont leurs conditions de travail. Est-ce qu'ils peuvent exploiter dans des conditions sereines ces réacteurs? Est-ce qu'ils disposent des pièces de rechange et de suffisamment de personnel pour pouvoir faire l'ensemble des contrôles et essais périodiques qui permettent de s'assurer dans la durée de la sûreté de fonctionnement de ces installations? Donc effectivement, il y a plusieurs piliers de la sûreté nucléaire, pour reprendre les termes de l'AIEA, qui aujourd'hui pose question à la centrale de Zaporijjia.
Julien Fautra, oui.
Petite question, les dispositifs de secours peuvent être activés pendant combien de temps?
Alors, dans le cas où le réseau électrique serait perdu, dans le cas où la centrale serait complètement déconnectée du réseau électrique, il y a encore une ligne de défense, ce sont les diesels de secours de la centrale, qui peuvent produire localement le courant nécessaire au système de sauvegarde. Ces diesels sont donnés pour une autonomie de 7 jours. Donc il y a 7 jours de fuel d'autonomie sur la centrale, d'après les informations dont on dispose. Au bout de 7 jours, il faudrait ramener de nouvelles quantités de fuel pour pouvoir continuer à faire fonctionner les diesels ou réalimenter au plus vite la centrale en la reconnectant au réseau.
Comment savoir exactement ce qu'il se passe dans cette centrale? On a l'impression que les informations ne sont pas si simples que ça à obtenir.
Alors nous, à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, nous avons organisé une veille pour essayer de collecter le maximum d'informations possibles sur ce qui se passe à la centrale. Et nous sommes notamment en contact avec l'autorité de sûreté nucléaire ukrainienne, SNRIU, grâce à qui nous disposons d'un certain nombre d'informations. Et SNRIU fournit aussi des informations à l'AIEA, à l'Agence internationale de l'énergie atomique. Mais SNRIU n'a pas accès au site de la centrale, ne peut pas réaliser les opérations de surveillance et de contrôle de la sûreté normale. Donc dans ces conditions-là, la visite de la centrale par des inspecteurs de l'AIEA, qui a été annoncée par M. Grossi, le directeur de l'AIEA, apparaît comme étant un moyen vraiment nécessaire pour obtenir plus d'informations sur ce qui se passe réellement à l'intérieur de la centrale, faire un véritable état des lieux.
Merci beaucoup Olivier Dubois, directeur adjoint de l'expertise de sûreté à l'IRSN. Merci d'avoir été l'invité de RTL Midi. RTL, il est midi 53. Encore beaucoup de monde ce week-end sur les routes. Dernier week-end avant la rentrée. Aujourd'hui et demain, c'est du rouge. Clément nous le disait en titre, partout en France, dans le sens des retours. Avant de prendre le volant, dernières heures pour recharger les batteries, c'est maintenant ou jamais. Exemple avec Esther et son fils à Toulouse.
C'est bientôt la rentrée, oui. Puis moi, je viens en vacances un petit peu comme je veux, en fait, puisque mon fils est à Narbonne, donc voilà. Et on vient toujours cette dernière semaine, parce qu'en fait, il y a presque plus grand monde. Donc c'est très tranquille.
C'est stratégique.
Voilà, c'est ça.
Et alors, comment vous allez occuper les derniers jours avec votre fils Ulrich, justement?
Eh bien, on se promène le matin, oui, plage, snack, après visite. On n'a rien de programmé, en fait, c'est les vacances.
Alors, le réhabituer aussi au rythme de l'école?
Ouais, on le fait petit à petit, tout doucement, oui. Ça reprend vite.
Et toi, Ulrich, tu as hâte de reprendre l'école?
Pas trop.
Ah bah oui, on comprend des propos recueillis par Valentin Larquier pour RTL. Ajaccio-Lille, début ce soir de la quatrième journée de Ligue 1. Un match à suivre évidemment dans RTL Foot à partir de 20h avec Eric Silvestro, Karine Galli et Xavier Domergue. Et cette semaine, sachez que c'est Franck Haise, l'entraîneur du Racing Club de Lens, qui répond à toutes les questions. Dans un instant, il a mis son gilet jaune fluo et est allé tester un métier plutôt dangereux, celui de dépanneur sur autoroute. On retrouve Frédéric Veil dans RTL en immersion.
RTL Midi. RTL Midi. Avec Agnès Bonfillon. RTL en immersion.
Et oui, c'est l'un de vos rendez-vous de l'été qui s'achève hein, aujourd'hui. Les journalistes de RTL ont testé un nouveau métier tous les jours. Et aujourd'hui, nous prenons la direction de la Normandie avec vous, Frédéric Veil. Bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est l'heure des retours de vacances. On l'a entendu il y a quelques instants. Il va y avoir encore beaucoup, beaucoup de monde ce week-end avec beaucoup de travail, forcément, en perspective pour les dépanneurs. Dépanneur, un métier passionnant mais dangereux, un métier que vous avez testé, Frédéric, au sein d'une société de dépannage-remorquage de Seine-Maritime.
Exactement. Ici, dans cette entreprise, il y a une vingtaine de camions de dépannage, que ce soit pour les voitures ou pour les grosses mi-remorques. Ici, la sécurité de tous, c'est le maître mot. Donc, avant de partir en dépannage, il faut s'équiper. Le métier de dépanneur exige certaines précautions. Il faut donc être en tenue. Sylvain Cantrel, bonjour. C'est avec vous que je vais partir en mission. Comment faut-il s'habiller ?
Alors, principalement, des vêtements de haute visibilité. Ça, c'est à la fois principal et obligatoire. Les vêtements de sécurité, chaussures, pantalons et tout ce qui va autour. Et surtout, impératif, c'est le gilet de haute visibilité fluo.
Bon, ben voilà, maintenant qu'on est équipé, il n'y a plus qu'à attendre la première mission. Donc, on est bien dans la zone d'accueil de l'entreprise.
Entrez l'assistance, bonjour.
Ça va être pour nous, ça.
Vous êtes en panne où exactement ?
Donc, en fait, tout part d'ici, les appels viennent d'ici.
Les appels viennent d'ici, on a quelques appels qui sont directement missionnés dans les camions avec un système informatique embarqué, mais principalement dans la journée, oui, le dispatch se fait depuis le bureau.
Bon, bah écoutez, on arrive ici une petite demi-heure.
Une petite demi-heure, ça nous laisse le temps de partir, on est maintenant qu'on est équipé en plus.
Eh ben, on y va directement.
C'est donc parti pour mon premier dépannage. Ah, c'est haut, hein. Voilà, à bord du camion, on part pour un petit quart d'heure de route pour arriver sur les lieux.
Bonjour.
Qu'est-ce qui nous arrive ?
Les tableaux, tout à l'heure, ils ne s'allumaient pas.
Ouais,
on n'avait plus rien.
Mais
c'est un génie, le gars d'RTL. Il est venu.
Oui, je viens, je dépanne, ça fonctionne. Oui.
Bon, en fait, c'était une panne électronique et je n'y étais pas pour grand-chose.
Bon là, Frédéric, c'est un dépannage assez facile, mais j'imagine que ce n'est pas toujours le cas.
Oui, et notamment sur autoroute.
Alors l'autoroute, on se fait régulièrement des petites frayeurs. Il faut être extrêmement vigilant par rapport à la circulation et surtout toujours avoir un œil sur le trafic.
Là, on vient d'actionner les gyrophares
pour avertir l'usager derrière qu'on va ralentir. On se positionne devant le véhicule du client et puis on va surtout aller rapidement lui donner des règles de sécurité.
Pour tout vous dire, je suis pas très très serein quand même, hein, parce que c'est...
Faut faire attention de ne pas se faire arracher une porte, c'est déjà arrivé. Bonjour, bonjour monsieur. Je vous en prie, montez à l'arrière du véhicule.
Allez, nous on remonte aussi très très vite. C'est hyper hyper impressionnant quand même de se retrouver là au bord de l'autoroute avec des camions qui vous frôlent à plus de 100 km/h.
Là, l'autoroute, c'est très dangereux. Ça, c'est... Moi, ça fait presque 30 ans que je suis sur ce réseau. Faut vraiment pas traîner, quoi.
Qu'est-ce qu'il faut comme formation pour être dépanneur automobile ?
Alors, principalement, il faut une formation technique autour de la réparation automobile. Ça peut être un CAP, un BEP, un bac pro, maintenance automobile ou équivalent. On a une formation dédiée qui est un certificat de qualification professionnelle. Et puis, bien sûr, il faut un permis poids lourd pour conduire nos véhicules.
Le salaire moyen ?
Entre 2500 et 4000 euros net par mois. Il ne faut pas oublier que c'est le jour, c'est la nuit, c'est le week-end. Et suivant comment on est organisé, quelquefois, ça peut être un peu intense.
Alors, question évidemment, Frédéric, vous n'allez pas y échapper. Est-ce que ça vous a plu et est-ce que vous seriez prêt, surtout, pour aller sillonner les routes au secours des automobilistes ?
Alors, ça m'a plu, oui, mais bon, je suis pas assez bon mécano pour m'orienter vers ce métier. Indispensable, bien payé, mais aussi très dangereux.
RTL en immersion, tous les épisodes de l'été à retrouver, comme celui de Frédéric Veil, hein, sur RTL.fr et notre appli RTL. Dans un instant, les auditeurs ont la parole.
RTL Midi.